Le choix statutaire, c'est généralement le reflet d'une situation donnée, et c'est pas sans incidence sur toutes les formes de gouvernance. À l'origine, les premières formes de mutualisation étaient issues de coopératives de production. Donc je me tourne vers Monsieur Néraud, vers Sébastien Néraud, pour évoquer avec lui SCOP, SIC et tous ces acronymes coopératifs et donc les applications et comment ce sont des exemples de mutualisation, de coopération par rapport au secteur culturel.
Bonjour à tous, je suis content d'être là. Je ne suis pas un spécialiste de la culture, je connais plutôt les coopératives en général. Ils sont présents sur tous les secteurs d'activité, dont la culture. Donc, je suis content d'être là parce que j'apprends autant par tous vos termes et tous vos sigles et je vois qu'il n'y a pas que chez nous, il y a des acronymes et des choses.
C'est très très fort pour ça.
Partout, mais c'est intéressant. Du coup, j'ai écouté attentivement le début puisqu'en effet, moi je vais plus vous présenter la SIC rapidement, mais qui a un statut juridique, donc qui n'est pas forcément. Il était important de dire qu'il y a un projet avant tout, et c'est ensuite est-ce que ce statut juridique peut s'adapter ou pas à un projet, quoi. Je vais assez peu parler de la SCOP, puisque la SCOP, c'est des salariés qui mutualisent une envie de travailler ensemble et ensuite ont une activité en SCOP. Pour un projet de mutualisation, ce n'est pas forcément le plus adapté, à mon avis. Là, c'est plutôt des personnes qui se mettent ensemble pour développer un projet économique. Par contre, la SIC, donc Société Coopérative d'Intérêt Collectif, peut effectivement être une structure qui pourrait s'adapter. Aujourd'hui, il y a plusieurs situations. Il y en a une petite centaine, je pense, en France. Je n'ai pas été regarder les chiffres, mais je voyais les chiffres de 2016 qui annonçaient 60, 66 dans le domaine culturel. Elles proviennent de plusieurs façons. Soit c'est des associations, et la plupart en fait, c'est des associations qui vont décider de se transformer en SIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Je rappelle que la loi, c'est un peu technique, mais la loi 47, qui est la loi coopérative, prévoit qu'une association peut se transformer en SCOP ou SIC si on l'intègre dans ses statuts. Et c'est la seule façon de sortir d'une association existante pour aller vers un modèle commercial et d'intérêt collectif. Puisque sinon, si vous avez une association et que vous voulez la faire évoluer, y a pas tant de, on ne peut pas transformer une association.
Parce que juste pour préciser, c'est qu'on peut être en SIC et avoir un mode de gestion de SA ou de SARL. Donc c'est
Ah, voilà.
une
Alors,
transition.
La SIC, et c'est vraiment, elle est née en 2001, donc c'est relativement récent, enfin c'est très récent même, comme statut juridique. Et c'est né au moment, on va pas refaire toute l'histoire, mais en gros, en 2001, on était à l'anniversaire des associations, du modèle, et des 100 ans de la loi de 1901, et il y a eu des discussions autour de l'évolution de ce modèle associatif qui comprend à la fois la situation de pêche du coin, où il n'y a pas de salariés, et puis à la fois des structures de plusieurs centaines, voire milliers de salariés, même dans notre région. Et donc à peu près les mêmes responsabilités pour les dirigeants associatifs. Donc du coup, on a dit on ne touche pas à l'association parce que ça, voilà, ça couvre un champ large et ça correspond à une souplesse, à ce qui a été dit par rapport à l'associatif. Par contre, nous, on était arrivé avec une étude en disant, mais regardez, il existe d'autres formes qui pourraient être entre du commercial et de l'associatif. Comment on lie la partie, comment on est une société, mais en même temps, on a un intérêt pour le territoire, un intérêt collectif. Puisqu'on n'est pas SIC tout seul, on est effectivement SARL SIC ou SAS SIC, enfin on est une société commerciale, on est dans le registre pleinement du code du commerce et du commercial, mais en même temps on a un intérêt collectif fort et un intérêt territoire. Et on est un mix puisqu'on peut avoir des bénévoles qui vont être actifs dans une société commerciale, ce qui n'existe pas en effet. Si vous êtes en société commerciale, on dit ah, attention, vous êtes des bénévoles, mais ils n'ont pas le droit de travailler pour le projet, parce que c'est une structure commerciale. Là, comme ils sont associés dans le projet, ils peuvent. Alors, ça ne veut pas dire que l'URSSAF comprend tout bien et qu'ils sont bien au courant, vu qu'il n'y a que 600 SIC en France, c'est encore anecdotique et voilà un petit bout de quelque chose. Donc, ils peuvent quand même encore nous embêter et nous dire, attendez, mais c'est quoi votre truc là où des bénévoles vont participer à un projet économique. Mais en tout cas, c'est défini dans la loi, donc c'est aussi notre travail, nous, d'aller dénoncer ça, enfin, promouvoir ça. Donc, on est une évolution du système associatif. En fait, l'objectif de la SIC, c'est de réunir autour d'un projet l'ensemble des acteurs économiques du projet. Donc on va pouvoir associer dans une structure justement l'ensemble des acteurs qui ont été définis là par rapport à un projet. Et c'est un projet où s'il y a une seule façon de porter habituellement un seul acteur économique classique du territoire ou dans votre métier qui porte le projet, eh ben, il y a moins de chances que le projet puisse fonctionner. Et donc là, on met l'ensemble des acteurs autour de la table. Donc c'est souvent des coopératives où il y a beaucoup d'associés et assez peu de salariés en fait. D'où un peu l'idée que ça mutualise effectivement des fonctions. Et ensuite, nous, on estime que c'est quand même une coopérative de salariés, c'est-à-dire qu'il faut au moins qu'il y ait un salarié dans la structure, mais ça, c'est nous, quand je dis nous, c'est le mouvement des SCOP et des SIC, puisque la loi n'impose plus de salariés dans les SIC. On pourrait avoir une SIC sans salariés, alors qu'elle est plus proche d'une mutualisation de moyens, une mutualisation de matériel, etc. Mais pour nous, toute activité de mutualisation, au démarrage ou à terme, a vocation peut-être à créer en plus de l'emploi et un salarié pour gérer ça. Donc sur le territoire et sur le, ça, c'est soit des structures pas en mutualisation, c'est-à-dire une compagnie de théâtre, une gestion d'un lieu culturel, etc., qui était sous forme associative, et souvent, ce qui a été dit à ma gauche, soit parce que, à cause d'une baisse de la gouvernance, je connais pas bien, mais quand même dans certaines compagnies, bah, qui on met à la présidence, hein, finalement c'est plus les salariés qui portent, que le projet associatif est-il vraiment porté par des bénévoles, mon ami quelqu'un de sa famille, mais un peu loin pour ne pas mettre le même nom sur le président, sinon ça se voit, mais parce que c'est un vrai projet associatif porté par des bénévoles, finalement on a utilisé l'association parce que c'était pratique. Mais... Donc là on décide de transformer, mais on n'est pas dans la mutualisation. Et après il y a des projets de SIC en France qui effectivement répondent à un projet, alors j'étais en chercher 2-3, mais il n'y en a pas vraiment dans notre région pour l'instant, mais de projets qui puissent porter une mutualisation, trouver par exemple culture et santé, en Bordeaux, en Aquitaine, qui est un regroupement d'acteurs culturels qui propose des actions vis-à-vis des établissements hospitaliers, donc des spectacles, des contes et tout ça qui vont. Et donc là, c'est à la fois une demande, ça réunit une centaine d'associés, à la fois demande de collectivité, mais aussi de l'Agence régionale de santé, des établissements de santé et des professionnels de l'art et de la culture, donc 35 professionnels, compagnies et autres, qui se mettent ensemble par rapport à ce projet pour répondre à une réponse commune qui est d'apporter de la culture dans ces lieux spécifiques. Et donc on a autour de la table, on a dans le conseil d'administration et dans la gestion et bien, les différents acteurs qui portent le projet. Donc là on réunit et tout le monde met un peu d'argent puisque bah, c'est une personne, une voix, c'est le principe coopératif et après c'est chacun apporte quand même de l'argent dans le projet. Donc c'est une gouvernance participative, collective, dans laquelle on décide, et puis ensuite, bah, s'il y a des salariés, c'est eux qui mettent en place l'activité. Un modèle économique mixte, et on peut me dire, est-ce que dans la SIC, pour avoir des subventions, bah oui, comme toute structure, hein, on sait bien que des structures commerciales, enfin les entreprises classiques, reçoivent beaucoup de subventions, hein, les associations, la plupart des subventions, enfin une grosse partie des subventions innovation, autres subventions sont accordées à des entreprises, donc c'est pas le statut qui fait ça, là on peut répondre à des appels à projets, on peut répondre à plein de choses sous forme de SIC. Et puis après, il faut quand même un peu de facturation, ou un bout de... c'est souvent un modèle économique mixte qui est quand même pas basé le plus souvent uniquement sur de la subvention, mais avec un peu de ressources propres et un mix entre la ressource propre et de la subvention.
D'ailleurs, ce qui est intéressant avec les SIC, par rapport au fait d'avoir un statut SA, SAS ou SARL, c'est que pour des groupes de musique qui ont leur propre catalogue d'œuvres, en association, ils ne peuvent pas être éditeurs de musique. Alors qu'ils sont obligés d'avoir une structure commerciale reconnue par la SACEM, alors que du coup, en basculant d'assaut en SA ou SAS ou SARL, ils peuvent rentrer, devenir donc du coup éditeur et toucher plus de, enfin, avoir une capacité d'investissement par rapport au projet qu'ils font. Donc c'est aussi une des transitions intéressantes pour la musique. Je ne sais pas si c'est pareil par rapport à d'autres secteurs, s'il y a des capacités structurelles pour certaines activités dans l'audiovisuel ou dans le livre, ou voilà. Mais je sais qu'en musique, c'est le cas et que c'est une des transitions potentielles intéressantes.
Et c'est après aussi sur des lieux spécifiques, je pense à la Péniche à Dijon, qui se forme de SIC, mais là qui est juste l'exploitation d'un lieu culturel, mais c'est de se dire on met l'ensemble des acteurs autour de la table et donc l'ensemble des acteurs sont sociétaires. Alors ici, comment ? Voilà, alors ici on connaît le bateau ivre, enfin EOI du bateau, il y a leur AG d'ailleurs demain soir, sur l'augmentation de capital et puis on continue. Donc là on a mis autour de la table l'ensemble aussi, enfin l'ensemble. Au niveau coopératif, on ne peut pas faire beaucoup plus gros, même si donc 1600 sociétaires aujourd'hui, 1300 citoyens, 120 compagnies de théâtre et associations, 40 entreprises et puis 4 collectivités aujourd'hui qui suivent. Là, l'objectif, à un moment de la coopérative, c'était montrer qu'il y avait du poids. Et donc, on a privilégié, enfin, ils ont, mais avec notre accompagnement, privilégié de mettre un maximum de monde dans la SIC. Ce n'est pas toujours le cas, hein, c'est que dans la SIC, le plus souvent, on va mettre autour de la table des gens qui sont vraiment intéressés par le projet. Et d'ailleurs, quand on crée une SIC, on se pose toujours la question, jusqu'où j'élargis ? Est-ce que j'ai intérêt d'avoir des centaines de sociétaires ou est-ce que j'ai intérêt d'avoir des sociétaires investis ? Puis en plus, il faut animer tout ça. Et donc là, 1600 sociétaires, c'est pas sans poser problème juridiquement, hein, c'est un peu compliqué quand même, j'avoue. On est quand même très très borderline toujours, mais c'est ça aussi dans les projets innovants et de projets de territoire, pour essayer de refaire vivre cette salle de spectacle. Et à moi qui n'étais pas du milieu culturel, ce que j'ai entendu, c'est effectivement, alors après ce qu'ils vont le faire, comment, moi je regarde ça de loin en les accompagnant, mais décloisonner effectivement le monde de la culture, mettre autour de la table, autour d'une société, l'ensemble des différents secteurs artistiques. Et puis le projet commun, c'est quand même une salle accessible à tous, avec des prix, alors est-ce qu'ils y arriveront, mais des places toujours à 10 euros pour tout le monde, etc. Enfin, il y a un vrai projet au-delà de juste mettre des gens autour de la table.
Je reviens sur tout ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au fait, enfin, juste il y a quelques temps, on était obligé d'avoir un salarié ou deux dans une scope ici, et là, visiblement, on a plus cette obligation-là d'avoir un salarié dans la structure.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est la loi du 31 juillet 2014 qui a assoupli cette contrainte d'avoir un salarié dans la structure aussi. Pas forcément porté par nous et par le mouvement. Enfin, les scopes sont des structures de salariés, on croit beaucoup aux salariés, en tout cas, la nécessité qu'une activité économique, à un moment, crée de l'emploi. C'est comme ça que je le dis. Ça a été plutôt historiquement porté par les coopératives agricoles, on parlait des CUMA, en fait. Mm-hmm. Beaucoup de CUMA veulent se mettre en SIC par rapport à la souplesse de la SIC, et du coup, les CUMA ne voulaient pas de salariés. Du coup, ils ont réussi à obtenir ça, de la SIC sans salariés. On peut le faire, et nous, on peut l'accompagner aussi, mais on se dit comment on se projette à 3, 5 ans, 10 ans dans la structure, et est-ce qu'il y a vocation, quand même, à un moment, à ce qui est du salariat ou pas dans la structure.
Donc, du coup, par rapport à une association qui n'a pas de salariés ou une SIC qui n'a pas de salariés, les différences, c'est plus sur les leviers de financement qu'on peut faire, qu'on peut avoir, sur les outils de mutualisation qu'on peut mettre en place, c'est quoi?
Après, la différence aussi, s'il n'y a pas de salariés, c'est comment s'impliquent les différents acteurs pour faire vivre le projet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas de salariés qui au quotidien veulent mettre en place ce qu'on décide, eh bien, il faut bien que les acteurs qui mutualisent se mouillent d'autant plus pour pouvoir faire vivre un projet. Et donc, pas uniquement dans la gouvernance, mais dans le quotidien, quoi. Qui fait ensuite comment les gens qui se mettent autour de la table pour ce projet portent ce projet et vont avancer sur ce projet-là. Après, juridiquement, voilà, tout est faisable. On crée une catégorie salariée, puis le jour où il y en a un, la catégorie s'active, comme toute catégorie. Donc ça, c'est plus un problème. On n'est plus obligé d'avoir une fausse promesse d'embauche qui fait qu'on a un salarié, puis en fait, on ne l'a pas vraiment au début, parce qu'on avait déjà avant.
D'accord. Je n'étais pas au courant.
Avec les questions que ça pose et d'accompagnement par rapport au collectif sur comment vous faites si vous mutualisez mais qu'il n'y a pas de salarié, qui fait, comment, concrètement, enfin après les mêmes questions qui ont été évoquées, à quelle fréquence se réunissent le conseil d'administration, le conseil de direction. Et l'ouverture aussi de la loi du 31 juillet, c'est effectivement la SAS SIC. Après, ça c'est de la technique juridique, mais une SARL, une SA, c'est très encadré dans son fonctionnement, donc vous devez respecter ce qui existe dans la loi, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Dans la SAS, vous faites ce que vous voulez, vous mettez l'organisation que vous voulez, vous faites un conseil coopératif, vous faites un conseil de direction, vous mettez l'organisation que vous souhaitez dans votre structure, donc c'est beaucoup plus souple. Encadré par le droit coopératif, on ne peut pas déroger une personne, une voix, des choses comme ça. Mais en moins, dans la gestion quotidienne, vous faites ce que vous voulez, assez proche de l'association, en fait, on met ce qu'on veut dans notre structure. Donc ça permet aussi facilement de rebasculer de la structure associative à la structure coopérative.
D'accord. Oui, Cécile.
Je trouve qu'il faut quand même mettre à l'écart quand même la SCOP, coopérative de salariés, parce que je pense qu'il y a des projets associatifs qui sont vraiment des projets de salariés et qui ont envie d'une autre organisation, d'une autre relation hiérarchique, etc., et qui partagent finalement un projet commun et qui ne sont pas du tout dans un univers de SCIC. Mmh. Là, il y a les parties prenantes. Et je pense que des fois, moi je rencontre des gens qui ont le désir, parce qu'ils ont des professions approchantes et tout ça, de travailler ensemble, mais d'une façon plus solidaire et plus partagée autour d'un projet. Ce qui me paraît quand même plus proche de la SCOP. Mais peut-être que je ne sais pas bien.
Je rejoins tout à fait ma camarade sur ce sujet. Nous, je disais tout à l'heure qu'on bossait sur l'évolution vers une forme coopérative. Valeurs politiques partagées, nous on était aussi plus proche de la SCOP, parce qu'on n'a pas rappelé qu'en SIC, il est possible, donc il y a une personne qui est toujours effective, mais il est possible de pondérer les collèges, de pondérer les droits de vote, les capacités d'administrer de chaque collège. Donc ça peut être considéré comme une entorse justement au principe d'une personne, une loi. Et on a par contre sur SCOP, on a une énorme, dans nos métiers, on a une énorme limitation, c'est qu'à ma connaissance, il n'est pas possible d'avoir comme sociétaire des salariés en CDD d'usage, si je ne me trompe pas, ce qui fait que c'est pas opérant en spectacle.
Je pense que c'est
Je crois que c'est ce qu'a fait justement Arteria.
C'était ma question en fait, c'est justement comment des intermittents peuvent faire partie du. Peuvent rentrer dans le projet.
Ben, si, je crois. Enfin, c'est, du coup, tu peux pas être.
Prends le micro, Doud, parce que.
Alors, je ne suis pas ultra spécialiste, mais ce que je sais, c'est que alors c'est, pour toutes les entreprises, tu ne peux pas être intermittent et gérant majoritaire. Enfin, sociétaire majoritaire, tu ne peux pas être gérant comme intermittent. Mais si, je pense que justement, Art en réel, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Et puis, plus proche de nous, il faudra aller voir du côté de, je pense, Jeux de Vilain, qui est en SIC.
C'est en SIC, c'est pas pareil. Ah oui. Je parlais de ce qu'on a d'associer les sociétaires en SIC.
En SCOM, on ne peut pas employer l'intermittent.
C'est pour ça que j'ai vu
Bah, ça serait quand même à revoir, hein, parce que j'ai regardé pour autre chose, là, où c'est, enfin rien à voir, mais le SCOM que j'ai dans la formation que j'accompagne, et ils ont des CDD d'usage. Ils ont une trentaine de personnes en 24 heures, en fait, CDD d'usage. Ils seront embauchés dans la structure classiquement, et même la participation donc, sera reverse à tout le monde, leur sera reversée. D'ailleurs, ils disent, mais oui, mais ils participent qu'à hauteur de. Certains 15 jours par an dans notre structure, est-ce que finalement ils ont contribué à la même façon que ceux qui ont contribué toute l'année en tant que salarié chez nous. Et donc on a revu là, juridiquement avec le service juridique qu'effectivement ils auraient droit. Et donc dans ces textes-là qui m'ont ressorti, étaient écrits les intermittents du spectacle. Après, c'est du cas par cas, on analyse avec vous votre situation pour en savoir plus. Mais c'est vrai que la SCOP, par contre, il y a quand même une entité commune, enfin, il y a un service commun qu'on va faire. Donc on est plus sur une activité qui est un peu commune, des gens qui ont la même activité, quoi. Je sais pas si. Dans tout type de secteur, mais la SCOP n'est pas tellement pour. Par exemple, des consultants, parfois, ils viennent me voir et disent c'est pas dans votre domaine, mais parce que c'est des domaines des sollicitations que j'ai. Donc, on est consultant et on voudrait mutualiser la fonction commerciale pour aller chercher des clients. Donc, on va créer juste une structure qui va aller me chercher des clients. Puis après, chacun reste indépendant, mais fait ça. C'est pas vraiment la partie de la SCOP, on est associé salarié, on est salarié dans la structure, on a un objectif, enfin une action commune, enfin une activité commune. Après, dans la SCOP, on peut avoir plusieurs activités, mais il y a quand même. Après, la transformation d'association en SCOP en tant que telle, oui, c'est effectivement, aujourd'hui, ça peut répondre à un besoin. Je veux dire, on identifie trois cas qui font que les gens se posent la question en association pour se transformer en SCOP. Baisse de la gouvernance. Clairement, j'arrive plus à renouveler mon conseil d'administration, mon président, il vieillissant, c'est toujours les mêmes, ça porte sur 2-3, c'est très fragile, s'il arrive quelque chose, qu'est-ce qui se passe, voilà. Un modèle économique qui se développe, je ne dis pas uniquement, j'ai un modèle économique mixte, avec une partie de ressources propres, une partie de ressources publiques, et puis d'autres ressources, et puis finalement une direction qui porte déjà, quoi. Un directeur ou des salariés, finalement, c'est eux qui font la structure déjà aujourd'hui, qui va être le premier point, c'est une gouvernance faible, mais finalement ils ont les capacités d'être gérants d'une société, parce que c'est déjà ce qu'ils font, finalement, en association. Et donc quand il y a ces trois critères cumulés, souvent on se pose la question, mais que faire finalement, et donc potentiellement un passage en SCOP.
Art en réel, dièse 1, ça devient une société coopérative.
Il faut qu'il parle dans le micro, parce que...
C'est Art en réel, dièse 1 sur Strasbourg, qui est une émanation en fait de Art en réel, qui est une CAE. Ça, c'est bien une SCOP, en fait, pour le coup, et ça avait dédié au spectacle vivant.
Donc, ils embauchent des intermittents pour...
ils ont 130 artistes et techniciens. On a 400 représentations, comme vous pouvez voir sur leur site.
Après, justement, c'est la force d'un mouvement comme le nôtre aussi, où sur les 3000 SCOP ou sites de France... 90% doivent être adhérents du mouvement SCOP et SIC. Donc après, la mise en relation, si ça n'existe pas en région, la mise en relation avec des SCOP existants du territoire. Chez Coé, avait été voir la Péniche, justement, pour voir comment... Enfin, qui est une SIC culturelle à dimension plus petite, mais qui, à Dijon, quelque chose qui pourrait ressembler au projet OE, même si le projet OE est tellement atypique qu'il ne ressemble à rien, mais d'autres sur le territoire, mais ils sont allés voir ce qui se passe pour pouvoir voir ce qui se passe, et c'est le cas dans le même culturel, c'est-à-dire s'il y a une SCOP ou une SIC qui dit tiens, vous mettre en relation avec d'autres structures qui ont déjà réfléchi à ces questions-là, et ça fait partie aussi d'une mise en réseau nécessaire.
Ouais, parce que justement, c'était la question suivante, c'est par rapport à la mutualisation de moyens du réseau coopératif, donc la vision nationale, comment la vision nationale peut aider par rapport aux actions de mutualisation sur le territoire régional avec des différentes structures, donc la notion de réseau national des SCOP et les actions d'intercoopération, promotion des échanges, et mutualisation des expériences et bonnes pratiques. C'est sur le site de l'URSS.
Oui, alors ça c'est pas simple parce qu'on a, on l'a dit, nos scopes SIC elles sont toutes dans tous les secteurs d'activité et on a dans les scopes des structures de 2 salariés, des SIC de 1 salarié et puis notre ancien, enfin notre président actuel du mouvement des scopes, Jacques Landriot, qui alors, pas encore très longtemps était PDG du groupe Up qui fait 3000 salariés, enfin chèque déjeuner, hein, 3000 salariés, 17 filiales, présents dans le monde entier, donc c'est des réalités d'entreprise qui sont extrêmement différentes. Dont un mouvement finalement très hétérogène dans son fonctionnement. Après, ce qu'on essaye d'apporter, c'est au plus proche du territoire, il y a un délégué suivi qui va suivre les scopes SIC du territoire, donc qui fait du lien entre les scopes SIC, ça c'est... et ensuite de répondre à des besoins de territoire par rapport à nos 75 scopes SIC en région. C'est encore extrêmement petit, on était 25 en 2010, on est 75 aujourd'hui, on a en visu la centaine, mais ça reste un millier de salariés, ça reste petit, quoi. Donc ça la demande, en fait. Après, il existe des choses qui ont été mutualisées au niveau de l'histoire, puisque les scopes c'est fin du 19e siècle, donc c'est pas, ça date pas d'hier, la loi de 47 puis de 78. Donc on a des outils financiers, par exemple, mutualisés depuis le départ. Les scopes mettent en commun une partie de leur chiffre d'affaires, puis ensuite mutualisent des outils financiers. Donc on peut aider certaines scopes aussi au démarrage de leur projet avec des outils financiers.
Comme quoi, par exemple?
Alors on a des titres participatifs, des titres participatifs notamment, ou une garantie bancaire auprès du crédit coopératif. Donc, la structure fait un emprunt et au lieu de se porter caution, bah, c'est le mouvement qui se porte caution auprès du crédit coop, qui était une émanation hein, au début du 20e siècle, 1905, du mouvement coopératif. C'est la banque coopérative en fait, qui a pris après son envol, mais c'était la banque des scopes au départ. Donc là, on a des outils comme ça, et puis on a des choses plus anecdotiques maintenant, mais qui ont été créées aussi. On a fêté les 80 ans là, je perds le nom maintenant, d'une mutualisation, une espèce de grand CE géant qui existait avec des aides aux coopérateurs, des choses comme ça pour l'union sociale, l'union sociale des SCOP, qui permettait d'aider des coopérateurs, même en peine de mobilité, en peine de ça, à faire, il faut encore du soutien à certains coopérateurs salariés qui auraient des difficultés économiques. Et ça c'est le grand reste d'un accompagnement global d'un salarié, pas que dans son fonction d'associé salarié, mais aussi dans sa vie au quotidien. D'accord. Et après, c'est mon autre casquette sur France Active. Après,
c'est parfait.
Les structures du, mais là c'est pas le fait d'être coopératif, hein, c'est toute structure associative ou coopérative étant dans le champ de l'économie sociale et solidaire peuvent bénéficier de soutien, puisqu'on parlait de soutien financier, notamment de réseaux de l'économie sociale et solidaire, et notamment France Active qui est une structure de financement de l'économie sociale qui peut, dans des projets de mutualisation, voir comment on peut initier des nouveaux projets de mutualisation et favoriser ça. Alors, il y a deux outils. Il y a plusieurs outils, des outils pour essayer d'avoir des fonds propres au démarrage d'un nouveau projet. C'est-à-dire, je lance un projet, il faut un peu de fonds propres, un peu d'argent. J'ai déjà un budget qui peut être bouclé, donc on ne va pas nous faire des financements de fonctionnement, mais on a déjà le budget, mais on sait que ça va mettre un peu de temps à arriver, que le temps que ça se débloque, etc. Et donc on peut avoir apporter un peu d'argent au démarrage d'un projet. Et on a un autre outil qui s'appelle le fonds de confiance, qui est là une structure, une entité, quelle qu'elle soit, associative, coopérative, etc., qui a un nouveau projet, soit de mutualisation, soit un nouveau projet, mais... qui a déjà plusieurs demandes, mais la structure qui le porte, c'est que de toute façon, c'est pas elle qui portera ce projet à terme. C'est-à-dire, je vais devoir soit créer une nouvelle structure, soit le confier à quelqu'un d'autre. J'ai beaucoup de demandes dans ce secteur-là, mais c'est pas mon domaine de prédiction, mais ça m'embête de pas pouvoir répondre à ces demandes que j'ai ou à ces nouveaux projets que j'ai. Je sens qu'il y a quelque chose là à faire. Ce n'est pas moi qui le porterai, parce que c'est pas dans mon domaine en tant que tel, c'est un peu à côté. Mais en même temps, il y a quelque chose à faire. Et donc je fais une étude pour voir est-ce qu'il y aurait une nouvelle structure à créer de l'économie sociale et solidaire, ou est-ce que je m'associe avec d'autres, etc. Une étude sur 6 mois avec un comité de pilotage, auquel je mets autour de la table tous les différents acteurs qui pourraient participer à ce nouveau projet. Et cette étude est cofinancée à 50% par ce fonds de confiance. J'embauche quelqu'un en fait pour faire l'étude pendant 6 mois, puisque moi, c'est pas moi qui peux tout faire, être au four au moulin. Donc j'embauche quelqu'un dans ma structure pour faire cette étude. Et puis je vois. Là, pour le coup, on nous demande des financeurs. Là, c'est un mix. On va chercher de l'argent privé et public là-dessus. Et nos financeurs nous demandent que ce soit des structures qui, à terme, créent de l'emploi et pas mal d'emplois. C'est entre 3 et 5 emplois dans les 3 à 5 ans. Donc, il faut quand même que ce soit des structures un peu. Enfin, des projets de mutualisation un peu solides avec la création d'emplois.
C'est le fonds de confiance. Hein, c'est ça, le fonds de confiance. C'est ce que vous me disiez par rapport à l'essaimage, sur la mise en place de nouvelles structures, etc.
Également, vous me disiez que on avait parlé par rapport au DLA, c'est quoi la différence de faire un DLA par rapport à l'évolution d'une structure, le fonds de confiance et le DLA. C'est que là, il y a l'obligation d'avoir des salariés à terme.
Voilà, le DLA, le fonds de confiance, il va y avoir des salariés. On est, le DLA, ça peut être l'accompagnement sur un regard extérieur et un prestataire qui va venir m'accompagner sur une réflexion que j'ai, si c'est sur la mutualisation, sur la mutualisation. Là, c'est au contraire, j'embauche quelqu'un en interne qui sera le futur porteur de projet, qui sera le futur directeur si c'est une nouvelle association ou si c'est la nouvelle personne qui aura vocation à réaliser la mutualisation envisagée. Donc on est déjà dans une étape, on va dire presque post-DLA, enfin j'aurais pu réfléchir déjà avec un DLA, me faire accompagner, puis ensuite ok je me lance, c'est qu'une étude, hein, au bout de 6 mois on peut dire bah non finalement l'étude donne rien, et puis ce qui est très important et ce qu'on voit dans les projets qu'on a accompagnés, c'est ce comité de pilotage autour de l'étude qui va se réunir 2-3 fois, une fois par mois, pendant le temps de l'étude, qui finalement sur les associations coopératives qui ont été créées, devient le premier conseil d'administration. Enfin, en partie, quoi, peut être le premier conseil d'administration de cette nouvelle structure. Et donc, du coup, on accompagne comme ça déjà des acteurs intéressés, et puis on commence à structurer un premier conseil d'administration pour la nouvelle structure.
D'accord, et ça, c'est géré par France Actif.
Voilà.
Par Centre Actif, hein.
Ouais, France Actif, Centre Val de Marne. On va changer de nom. Il faut trouver un cofinanceur à 50%. C'est là qui peut être la région, qui peut être d'autres, enfin, qui peut être plein d'autres. Voilà, mais
non, on n'allons pas émerger sur les mêmes financeurs que les dispositifs de fonds de confiance. J'imagine que ça va être la
question. Ouais, mais c'était des dépôts, région, etc. Mais on a déjà eu du cofinancement région sur d'autres. On était hier à la création de la coopérative d'installation paysanne à SIAP en région sur le domaine agricole, donc il n'y a rien à voir. Et qu'il y a eu un fonds de confiance, 50% nous et 50% la région, mais sur le volet agricole, ça n'a pas posé de problème. Enfin, c'était pas les mêmes services. Donc.
Et c'est 6 dossiers par an.
Alors on a une première enveloppe de 100 000 euros, c'est en moyenne 20 000 euros le fonds de confiance. Alors on a fait des moyennes un peu plus petites, donc on va pouvoir accompagner un peu plus de projets, donc il reste encore 2-3 projets à accompagner. D'accord. Avant qu'on aille chercher une deuxième enveloppe.
D'accord. Ok. Et merci. Des questions par rapport à Scope SIC, ça va bien ? Eh bien, il y a une forme de Scope qui est représentée à cette table, c'est la CAE. Emmanuel Douda, la CAE, la coopérative d'activité et d'emploi.
Du coup, on a un petit peu déjà quand même parlé, au moins sur les origines et la raison pourquoi ce type de structure s'est créé. Pour le coup, c'est une entreprise, c'est une SARL qui fonctionne en scope. Donc, avec un mode de gouvernance particulier, elle est tenue à un certain nombre de règles qui sont essentiellement que 51% du droit de vote est dans l'entreprise et 65% du capital dans l'entreprise, détenu par les salariés. Que le résultat net, c'est-à-dire que s'il y a des bénéfices à la fin de l'année, il est redistribué. Une partie forcément retourne à l'entreprise, une partie aux salariés. Et éventuellement, ou pas, en tous les cas chez nous c'est le cas, il n'y a pas de dividendes, mais il pourrait y avoir des dividendes pour si c'est des choix statutaires.
Donc ça veut dire que pour avoir des dividendes, il faut que ce soit mis dans les communes SARL.
De toute façon, oui, c'est les règles, elles se donnent, elles sont posées effectivement dans les statuts. Donc effectivement, la coopérative d'activité d'emploi, elle répond à cette demande, en tous les cas la nôtre, parce que alors je ne veux pas rentrer dans des polémiques ou des quoi que ce soit, mais nous on se considère comme plutôt comme une entreprise partagée que comme une entreprise de service. Donc l'idée c'est que on organise des moyens qui vont être pour le coup mutualisés et du coup partagés entre un certain nombre de coopérateurs. L'enjeu étant que du coup pour créer une activité économique, soit on s'immatricule, on crée un numéro de SIRET dans une entreprise, soit on s'adosse à une structure qui existe déjà. Là, pour le coup, quand ils rentrent chez nous, ils n'ont pas à s'immatriculer, puisque nous, on préexiste à eux. Donc, ils ont un statut depuis Benoît Hamon, la loi de 2014 sur l'économie sociale et solidaire, applicable au 1er janvier 2016. Ils sont reconnus comme des entrepreneurs salariés associés. Ça veut dire qu'on leur reconnaît, au sein de la coopérative, sous notre numéro de SIRET, le fait qu'ils sont responsables de leur modèle économique, ce qui n'empêche pas qu'ils puissent s'adosser éventuellement aux copains pour construire des synergies. Alors, c'est le cas chez nous, puisqu'il y a des pôles, et ils sont se regroupés. Les gens qui font de la médiation, du conseil, du développement informatique, du je sais pas quoi.
Il y a une mutualisation de compétences au sein de la CE en termes d'échange d'informations ou de formation.
Alors etc. Là, l'entrée qu'on a mise sur ces pôles-là, en fait, il est à trois endroits. C'est d'une part l'entrée R&D. D'autre part, l'échange de compétences, et troisièmement, la partie commercialisation. C'est-à-dire que du coup, on anime, on incite, ou on réfléchit avec eux à un certain nombre de ces endroits-là. Par exemple, les artisans qui gèrent de la boutique éphémère ne sont pas très intéressés par la R&D, plutôt sur la partie commercialisation. Les geeks sont plutôt intéressés par l'échange de compétences, éventuellement de la R&D, et puis éventuellement sur la partie commerciale, ils font des conditions générales de vente, voilà, des choses comme ça, mais peut-être un petit peu moins. Donc la coopérative voilà, elle est structurée de cette manière-là, et du coup, quand ils vont facturer, sur la base du numéro de tirage de la coopérative, l'économie qui est rentrée, on est en comptabilité analytique. L'idée, c'est que on va générer en fait un contrat de travail qui est du coup en contrat à durée indéterminée, donc je disais un ESA, entrepreneur, salarié régime général, c'est pour ça qu'on n'est pas sur le spectacle vivant, donc avec des vraies charges et des vrais droits derrière, mais comme dans une association, et puis sociétaire, c'est-à-dire qu'ils ont l'obligation de devenir des bouts de patron. De prendre au moins une part. La loi ne peut pas imposer de prendre plus d'une part. Aujourd'hui, nous, on a alors 37 plus bientôt 17, puisqu'on a l'AG jeudi, sociétaires, donc un peu plus, voilà, ça commence à faire un petit peu pas mal de monde de sociétaires.
Oui, parce que voilà. Vous avez une spécificité, c'est que vous faites de la cooptation pour les nouveaux, nouveaux entrants.
Oui, parce que finalement, alors bon, on est issu d'une culture du libre, etc. Enfin, on pourra en parler, mais et puis sur un sujet particulier qui fait que aussi en étant entreprise partagée, on attire vers nous un certain nombre d'entrepreneurs culturels dans un moment où finalement les plasticiens et puis beaucoup des gens à qui on s'adresse, on a un petit peu marre d'être tout seul. Et aujourd'hui, on est plutôt depuis 2-3 ans dans une. Alors, problématique qui n'en est pas une, mais quand même un petit peu, c'est que la collectivité contribue un petit peu quand même au fonctionnement de ce type de structure, mais pour des raisons pratiques, de capacité aussi à travailler collectivement et à accompagner les gens. Sur Orléans et sur Tours, en fait, on bloque les entrées aujourd'hui entre mars et avril. Parce que du coup, on a trop. Enfin, le nombre de gens qui viennent vers nous chaque année, on correspond à une quinzaine de personnes en gros. Aujourd'hui, on est dans un système où on est obligé de bloquer, parce que, ouais, bon. Mais qui correspond aussi à un moment en fait, où ces structures-là, pas forcément les CAE, hein, mais le système de la coopération, de la mutualisation, c'est pourquoi les gens viennent vers nous, d'une part pour se concentrer sur leur projet et puis être accaparés par des tâches administratives, pour le projet politique éventuellement, et puis pour avoir des copains. Enfin, et puis pour bénéficier, rejoindre la mutualisation, d'un certain nombre d'outils. Nous, on a la chance d'avoir un résultat net plutôt positif depuis un certain nombre d'années. Et je pourrais le montrer si on veut, mais par exemple, dès le 1er janvier, on anticipe ce qui va se passer au 31-12 économiquement. On sait qu'on aura une quinzaine de milliers d'euros de résultat net, une vingtaine de milliers. Et puis du coup, on se pose la question, soit ça devient le résultat net. Et du coup, c'est redistribué une part vers l'entreprise, une part aux salariés. Aux salariés, et chez nous, zéro en dividende. Soit on réduit le résultat net avant, en investissant dans des projets, dans un certain nombre de choses. Et donc là, depuis quelques semaines, je pourrais vous le montrer si vous voulez, on utilise un outil qui s'appelle CoBudget, où les coopérateurs viennent pousser des propositions de projets à partir du moment où ils sont plusieurs dessus. Et après, on a un deuxième temps où on verrouille le truc, et où les coopérateurs en amont de l'AG viennent poser des jetons et disent, bah voilà, moi je mets tant d'argent là-dessus, tant d'argent là-dessus, tant d'argent là-dessus. Et à l'AG, du coup, on déroule le truc, on rend compte en fait des résultats. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a tout un débat qui s'organise en amont de l'AG où on vient promouvoir ces projets et dire mais pourquoi c'est super d'investir dans de l'équipement, une CNC, une imprimante 3D, ou je ne sais pas, ou participer à la communication d'un pôle qui va générer une économie, qui reviendra vers la coopérative. Enfin voilà, bon, après chacun y va un petit peu de son truc.
Et donc au budget, tu peux arriver en mettant.
Je peux vous le montrer si vous voulez.
Tu peux arriver en mettant carrément du. Comment ça s'appelle du. Je ne cite pas d'argent, mais je donne 10 heures de mon temps. Tu peux avoir une valorisation de temps.
Non, non. Là, la problématique, c'est vraiment sur la question du résultat net, de l'économie du projet. Quoi. C'est comment je suis là. C'est, j'ai un ordinateur non privatif.
Attends. Quel rebelle. Attends, par contre, si tu viens de Vermont, c'est celui-là.
Thank you. ça sert ton réel. Du coup, que vous faites.
Du coup, bah, ça c'est. Alors, du coup, on voit pas super bien.
C'est ce que je dis toujours.
Donc chaque ligne en fait correspond à une proposition d'un groupe d'entrepreneurs. Il ne faut pas que ce soit un seul entrepreneur. Donc, par exemple, réparation, maintenance ou achat d'une imprimante 3D, permanence juridique, parce qu'on a besoin d'une expertise.
Et dessous, qu'est-ce qui est marqué en fait ?
On n'a pas. Et en dessous, on a le prix qui est demandé. Alors le prix, il est là. Et puis là où on en est en fait de la demande. Et puis, bah, s'organise tout un tas de débats. Si je prends un exemple, je ne sais pas, par exemple celui-ci, un entrepreneur de la coopérative qui généreusement nous propose de faire des vidéos parce qu'il y a une expertise là-dessus pour promouvoir des pôles. Et du coup, bah, s'organise là tout un débat en se disant, mais est-ce que c'est vraiment utile, le besoin, est-ce qu'il a été identifié. Et puis, bah, là, on voit qu'il y a un certain nombre de postes, ça se bagarre. Et puis, on voit qu'à la fin, bah, il n'y a pas de sous sur sa ligne, parce que du coup, c'est une chouette proposition, mais...
Qui n'intéresse personne.
Bah, c'est pas qu'elle n'intéresse pas, c'est qu'elle vient trop tôt. Voilà. C'est la technique. Donc, par exemple, là, du matériel de soudure, des projets. Ça, c'est un exemple vraiment de mutualisation au sein de la coopérative où là, on mutualise les ressources économiques. Sur la condition évidemment qu'on a un résultat net positif à la fin de l'année.
C'est presque la démocratie participative à l'aune du fonctionnement d'une coopérative en fait, puisque chacun est en capacité de dire bah, ça m'intéresse pas. Et donc,
c'est le but du jeu, puisque oui, tout le monde est dans l'idée que tout le monde est sociétaire ou presque. Donc du coup, chacun peut être à la fois pour des propositions. Alors, par contre, ne vote que les sociétaires. Tout le monde peut proposer, mais ne vote que les sociétaires.
D'accord.
Le droit de vote. Et du coup, effectivement, ça va donner voilà, un certain nombre de propositions. Je pense par exemple, donc ça c'est le outil de la coopérative, où on voit par exemple sur la question des ressources qui sont là, qu'au cours du temps, du coup, on a investi dans un certain nombre de lieux. L'année dernière, bah, du coup, dans le cadre du plateau rue de Limard, on avait pris un peu l'initiative parce qu'on avait besoin d'un lieu de coworking parce que c'est pas quelque chose qu'on pouvait faire au 108 où il y avait le bureau administratif de la coopérative. Que sur ces lieux-là, éventuellement, on peut investir du matériel suivant la fonction, la définition du lieu. Je sais pas, les makers, ceux qui sont plutôt sur Tours, vont avoir aussi besoin d'équipements techniques. Du coup, on va mettre des moyens sous la condition que ce soit ouvert et accessible, du coup, définir les conditions d'accessibilité pour les autres, etc.
T'as dit un truc, le wiki de la coopérative, je trouve que c'est un super outil de mutualisation par rapport au commun que représentent les ressources. Et ça vient que t'en dises quelques mots, parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose de vraiment très très bien, le fait d'avoir, par rapport au nombre de structures de personnes qui sont entrepreneurs salariés, d'avoir un outil qui leur permette de récupérer des méthodos, un certain nombre de choses.
Alors on a deux wikis, celui-là est en train de disparaître au profit du second, mais du coup là c'est un lieu voilà, qui est ouvert, hein, puisque tout le monde peut y aller. On voit que là on a l'ensemble de tous les
comptes. Tu veux dire que ce wiki est ouvert à tout le monde, même ouais. Si on n'est pas entrepreneur salarié ouais.
Donc là où on a effectivement bah, par exemple les comptes rendus de toutes les réunions des CO depuis, voilà, qui est au cœur de notre gouvernance depuis le début, que là on a des ressources projets sur des enjeux structurants, financiers, un projet, etc. etc. Donc là, on va retrouver bah, des contenus. Rédiger un projet, monter un budget, financer son projet, etc. Donc c'est des choses alors, qui donnent lieu éventuellement à des ateliers aussi en face-à-face, parce que du coup, il faut de la médiation humaine aussi derrière un certain nombre de choses. Et puis, si je vais jusqu'au bout, alors là, c'est pas sur le wiki, mais juste pour faire le pendant, on a un cloud, c'est un espace voilà, sur un serveur. OVH où du coup on partage un certain nombre de choses et voilà, si je prends par exemple l'entrée artefact entrepreneur, bah, j'ai de la base de données, là je partage on partage de la base de données, on partage ressources documentaires de la base d'informations juridiques, et si je vais dans un appel d'offres, bah, par exemple ici il y a tous les DLA auxquels on a répondu.
tous les appels à projets éventuellement qu'elle a répondu. Et puis du coup, on peut aller voir, il y a une entrée à la fois sur la commande admin, et puis la réponse qu'on a produite, et puis avec un commentaire, savoir si ça marchait, si ça n'a pas marché. Donc il y a du reporting, mais aussi du retour d'expérience. Voilà, donc il y a tout un tas d'outils effectivement qui sont mutualisés dans une vraiment philosophie du libre. On fait les choses, on les documente, on les partage, dans l'idée qu'effectivement bah, ça puisse éventuellement servir. Et puis bah, ça nous a aussi alors, du coup, permis par exemple d'être repérés par d'autres CAE en France. Je pense par exemple à Opteos qui est une libriste comme nous, et du coup à développer des coopérations. Je donne un exemple. On a un site où on produit de l'information sur notre offre de formation, alors tous c'est les coopérateurs. Il s'avère que avec la loi sur la formation professionnelle, on a voulu automatiser par ce site les inscriptions des gens, etc. Voilà, c'est des outils du coup qu'on on mutualise le développement avec d'autres coopératives qui ont tous le même besoin. Tu reviens en arrière. Donc par exemple, projet dans les tuyaux, qui est une autre entrée où là l'idée c'est de dire que au bénéfice des coopérateurs, mais pas seulement, de dire tout un tas de projets un peu ambitieux sur lesquels on bosse, plutôt innovation sociale, etc. Et du coup, on crée des portes d'entrée pour permettre à tout le monde de s'en saisir. Soit Habitat d'urgence, on travaille avec Jeunesse Sport là-dessus. Et derrière, il y a au moins le nom d'un référent, un pad, et puis la production derrière. Et parce qu'on est aussi sur une problématique de territoire quand même qui est assez éclatée, et comment on s'approprie les collègues qui sont partés par d'autres sur d'autres territoires. Quoi. Donc la communication, elle est vraiment au centre de cette histoire. Et juste pour finir sur les enjeux de la communication, on a un frame maritime qui est en fait une sorte d'IRC, c'est-à-dire un système de communication permanente où on a des canaux, un certain nombre de canaux dans lesquels les gens viennent causer. On a des tuyaux avec où c'est marqué projet, montrer son projet, ou gouvernance, ou je sais pas quoi, les techniciens ont leur propre canal, les canaux privés, moi j'en ai un évidemment sur les gérances avec ma collègue, et chacun du coup, voilà, et ça c'est indispensable parce que ça participe au même titre que les espaces physiques d'une connaissance en fait des gens, de leur état d'esprit, de leurs compétences, etc. Et donc il ne s'agit pas de faire des usines, des machines de guerre avec de l'outillage informatique à gogo, mais à un moment, on ne peut pas se couper de ces outils-là.
Sachant que tous les, souvent, quand on parle de mutualisation, on parle de proximité, et là, du coup, il n'y a pas de proximité, à part via les réseaux, les outils que vous avez mis en place.
Si, à Tours, on est présent dans une pépinière où on souhaite quand même un petit peu une partie du rez-de-chaussée. Donc, les mardis, notamment, je pense qu'il y a au moins 15-20 coopérateurs qui sont présents tous les mardis.
Tous les coopérateurs ne sont pas là en même temps.
Mais ce n'est pas nécessaire pour coopérer, il suffit aussi d'avoir confiance, pour créer les conditions de la confiance, d'où les CO chaque mois en fait. On a un comité d'orientation sur chaque territoire qui nous permet de nous rassembler, donc sur le Loiret, sur l'Indre-et-Loire, sur Blois, sur Nantes. Une fois, trois fois dans l'année, ces CO rassemblent tous les coopérateurs de tous les territoires, se transforment en CA, et une fois par an, là, ça va être jeudi, on a l'Assemblée Générale comme tout. Voilà. Et donc, on utilise ces moments-là pour discuter, échanger, faire avancer le projet sur un certain nombre d'enjeux. Mais ça marche plutôt bien et ça marche aussi sous la condition qu'il y a du retour. C'est-à-dire que du coup, c'est là où on n'est pas entreprise de portage ou entreprise de service, c'est qu'on s'engage auprès des coopérateurs. Il y a beaucoup des projets qu'on a vu dans le projet d'un tuyau qui sont aussi à l'impulsion de l'équipe d'appui sur laquelle on s'engage, etc. Et du coup, il y a un donnant-donnant où je pense que les gens s'y retrouvent. Et du coup, en échange, ils sont présents, quoi. Enfin, parce qu'ils ont envie d'adhérer au truc, quoi.
Donc, en termes de mutualisation, il y a les outils, il y a les interactions qui sont facilitées. Et on parlait tout à l'heure de la montée en compétences nécessaire ou de la montée en structuration au niveau des finances, etc. Tu estimes que c'est à peu près combien. Il faut combien de sous pour venir pour rentrer à Artefact, pour devenir sociétaire, c'est quoi à peu près le montant d'activité au final?
Alors c'est simple en fait, c'est la loi qui le donne, c'est-à-dire que pour avoir un contrat ESA aujourd'hui, il faut au moins être capable de générer au régime général 10 heures par mois. Donc en gros c'est 130 euros, ça c'est le minimum. Nous clairement on n'a pas de politique en fait. Barrage économique dans les coopératives. c'est suivant l'ambition. Et voilà, on les a pu. D'ailleurs, c'est là où je vais à Bourges tout à l'heure. On avait des copains qui étaient dans des yourtes. Donc voilà, ils avaient l'ambition d'être à 600 euros par mois. Pour autant, ils étaient sociétaires. Voilà, ça, c'est pas un sujet. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que tous les gens qui sont dans la coopérative, on a des très riches dans la coopérative hein, aussi. Quand je dis très riches, c'est des gens qui brassent vraiment beaucoup de sous. Pour autant, ils ont les mêmes droits, ils ont le même niveau de service que ceux qui est le plasticien lambda qui sort une toile une fois tous les mois et qui la vend difficilement 200 euros. Quoi. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est ça. Il n'y a pas de. Voilà. Non, par contre, par exemple.
À part le seuil fixé par la loi.
Ouais, par contre, ce qui est intéressant, c'est que les coopérateurs, à un moment, ont choisi. Alors, il faudrait. Je ne sais pas si. Voilà. On choisit par exemple, donc là on a l'Assemblée Générale. Donc l'Assemblée Générale, on pose la question aux gens de devenir sociétaire. Il s'avère que la coopérative grossissant, notamment les gens de Tours disent oui, mais il y a des gens qui vont se présenter, on ne les connaît pas, ou très peu, des fois. On coopère voilà, sur notre domaine d'activité, on coopère forcément pas avec tout le monde. Donc du coup, ils ont produit une grille qui a rempli en amont. Par les coopérateurs, qui est juste une grille d'information. Elle ne vient pas verrouiller l'histoire, mais pour dire, ben, voilà, finalement, t'es qui aussi pour acculturer. Enfin, l'enjeu, c'est aussi d'acculturer. Et du coup, voilà, les gens remplissent ça, c'est communiqué aux gens sociétaires qui vont voter. Et voilà, ça fait partie du processus, de la manière qu'on a des ateliers sur le sociétariat, où du coup, on apprend l'histoire des scopes. Aussi, où on apprend l'histoire de la coopération, qu'est-ce que c'est qu'une SARL, qu'est-ce que c'est qu'une SCOP, etc. Et du coup, on les monte en compétences. Après, on a un conseil de surveillance. Bon, voilà, on a une entreprise quand même assez importante aujourd'hui, quand même. On a des obligations réglementaires, on fait des DP, des DD personnels, etc. etc.
Ok.
Petite
internet
technique.
On parlait de bénéficier aussi de levier économique du fait de la réussite du collectif sur les investissements, etc.
Alors si juste on, ce qu'on peut rajouter quand même, c'est qu'avec le centre actif, la région et la CDC, alors juste la contrainte qui est la nôtre, c'est que quand les entrepreneurs culturels rentrent dans la coopérative, ne créent pas d'identité juridique. Donc du coup, il y a tout un tas d'outils auxquels ils n'ont pas le droit, notamment l'ACRE, etc. Donc on a imaginé ensemble un outil qui s'appelle le FRES, qui est le Fonds Régional pour les entrepreneurs salariés des coopératives et pas que de nous.
C'est après ça. Tu es en train de parler de quelque chose qui va arriver après. Eh oui, Jude, tu n'as pas la... c'est plus l'heure du micro. Si on continue, merci Monsieur Duda.